tout de suite pour justement apporter un peu d'éléments techniques, quoi. Bon, a priori, je n'étais pas un spécialiste de la physique nucléaire, mais on s'y met vite, hein. Surtout qu'à l'époque, il y avait des scientifiques vraiment chevronnés dans ce domaine qui avaient constitué le groupement des scientifiques pour l'information sur le nucléaire avec des physiciens nucléaires, et c'était assez vite qu'on avait toutes les informations, quoi. Puis avec des gens comme Michel qui étaient sur le terrain en plus, on complétait tout ça. Donc c'est à cette occasion, effectivement.
Alors qu'est-ce qu'il fait là-haut? Alors il y a un ouvrier qui est là-haut. Il est assez, assez haut perché.
Une cinquantaine de mètres, hein, 50, un peu plus de 50.
C'est,
oui.
C'est toi, Michel, qui nous disait qu'elle fuyait quand on voyait des rustines parfois et que vous trouviez les trous en mettant parfum de rose, c'est pas
ça,
nous avais raconté
ça. On injectait du parfum de rose à l'intérieur. On avait des copains qu'on appelait les sniffers qui faisaient le tour. Et donc, ils cherchaient le parfum de rose et quand ça sentait vraiment beaucoup la rose, eh bien, hop, on mettait une rustine.
Une rustine, donc, sur le bâtiment réacteur.
On les voit très bien, oui.
On les voit, d'accord. On va s'approcher un peu.
On peut imaginer que s'il y a des rustines, il y avait des infiltrations. Donc, tout le béton le long de l'infiltration doit être quand même plus ou moins contaminé, quoi.
Voilà, il est en train de piquer le béton. Il doit y avoir un bout de ferraille. On voit les rustines à côté, quand même.
Comme les sparadraps noirs, là, les petits carrés noirs.
Mais c'est bien, parce que si on veut le laisser encore un siècle, il vaut mieux le maintenir en état qu'il ne s'écroule pas, quoi. Qu'il n'y ait pas de fissures.
Oui. Et bon, alors ce qu'on a su assez vite, mais par des informations internes, c'est que dès le début, cette enceinte, elle fuyait.
Alors aujourd'hui, ici, c'est la deuxième manche, quoi. Hein, c'est la manche du... Il y a eu la première manche, c'était la construction, donc lutter contre la construction, et maintenant, il faut lutter contre le démantèlement, la déconstruction. C'est quand même costaud, quoi. Vous avez fait les deux luttes, alors vous êtes des deux luttes. Donc 30 ans plus tard, c'est ça? Il faut maintenant se battre à nouveau, mais cette fois-ci pour limiter les dégâts, quoi. C'est ça.
Pas faire n'importe quoi.
Voilà, je pense à Michel que c'est plutôt ce qu'il faut dire. On ne peut pas lutter contre le démantèlement des centrales nucléaires parce qu'il faudra toutes les démanteler un jour ou l'autre, hein. Mais lutter pour que ça se fasse dans des bonnes conditions, proprement, sans risque pour la population, pour les travailleurs qui sont dedans, quoi.
1 000 milliards de dollars. C'est l'ordre de grandeur qui a été donné et qui probablement est sous-estimé encore.
Pour démanteler ce qui existe. Donc c'est une somme incompressible qui sera nécessaire pour aller de l'avant ou arrêter, quoi qu'il arrive.
Quoi qu'il arrive, il faut provisionner cette somme-là. 1 000 milliards de dollars, on en est loin. Hein. Donc en fait, on reporte sur les générations qui suivent.
Bonjour, le Centre d'information du public de Brennilis. J'avais sollicité une visite de la centrale. Alors là, je suis à Brennilis, j'ai vu qu'il y avait eu une visite presse le 4 avril. Alors je suis quand même un peu déçu de ne pas y avoir été convié. Henri Proglio prenait la transparence, qu'elle était due au public, etc. Donc bon, il faudra que ça passe aux actes un peu, quoi. Sinon, c'est de la com, quoi. On est dans la com et pas dans l'information. Donc pour un centre d'information du public, ce serait quand même pas mal, quoi. D'accord, merci. Au revoir.
Il est têtu, ce Tchao. Hein, il croit à la transparence, à l'information, à tout ça. Il est têtu, il est un petit peu naïf. Et il rencontre Olivier Herry, l'ancien de la centrale et ancien maire de Brennilis. Olivier Herry.
Monsieur Herry, donc, vous avez été maire de Brennilis.
J'ai été maire pendant 5 ans et demi. Et pendant 5 ans et demi, j'ai eu donc l'après centrale nucléaire, donc la reconversion du site, et cela m'a pris beaucoup de temps. Je venais d'arriver à la retraite après, puisque j'ai travaillé 30 ans dans le nucléaire, dont 8 ans à Marcoule et le reste des 30 années à Brennilis. Et j'ai donc eu la reconversion du site de Brennilis à mon compte, et cela m'a pris beaucoup de temps. J'ai démissionné au bout de 5 ans et demi, parce que je ne voulais pas cautionner l'EDF, la préfecture et les services de l'État qui nous ont un peu laissés dans l'embarras.
Mais justement, là se pose la question du coup du démantèlement des installations.
Savoir si vraiment on maîtrise ce coup. Je ne sais pas si les provisions sont suffisantes. EDF dit que les provisions sont suffisantes, mais j'en suis pas tellement sûr. Parce que le démantèlement de Brennilis, au départ, il avait été dit que le démantèlement coûterait autant que la construction. Et je crois qu'aujourd'hui, on a dû dépasser de 3, 4, 5 fois ce qui était prévu à l'origine.
Mais l'avenir d'EDF, c'est aussi d'être capable de démanteler les centrales françaises et aussi le parc de centrales en Angleterre qu'elle a acheté il y a quelques années, hein, des vieilles centrales en fin de vie. Donc EDF se positionne
avec un savoir-faire.